Le gigolo où la morale est sauve, mais de justesse. Le lieutenant Hansen fêtait ses 40 ans. Ce fut un événement qui attira des amis de tous les coins, chacun tenant à honorer le militaire de jadis qui allait maintenant passer à la deuxième et probablement la meilleure partie de sa jeunesse. Grosso modo, son cheminement sur Terre avait été facile, bien que les mœurs militaires lui aient valu autrefois des pieds endoloris. Mais les années en Arctique avaient transformé ce fatras en quelque chose d'utile dont Hansen pourrait profiter durant les 40 années à venir. Ainsi, on pouvait dire qu'Hansen avait quitté la vie militaire comme on quitte la maternelle et qu'en grandissant, à l'aide de ce pays somptueux et de ses nombreux amis, il était devenu un chasseur Hansen irréprochable. Ludwig arriva bon dernier. Avec à ses trousses une terrible tempête de neige qui soufflait si violemment que les chiens furent soulevés au bout de leurs chaînes et auraient probablement péri étranglés si on ne les avait pas libérés à temps. Les débris de la cabane de distillation, dynamitée au temps du curé d'enfer, furent emportés si haut sur les coteaux de Fimbul par les bourrasques que personne ne pourrait plus jamais les en ramener. Le vent levait la neige et le lieutenant Hansen dut sortir tirer des coups de feu avec son vieux 89 pour permettre à Ludwig de trouver la maison. Mais la tempête resta sur le seuil de la maison. On entendait bien sûr ses hurlements et l'on sentait sa puissance quand elle se jetait sur la cabane de Fimbul et tentait de l'arracher à ses fondations. Les poutres du plafond grinçaient et gémissaient et les bourrasques les plus violentes faisaient trembler la table de sorte que les verres et les bouteilles s'y égaillaient joyeusement. C'était un peu comme si la nature en personne souhaitait honorer le lieutenant en ce jour mémorable. Comme d'ordinaire lors des longues tempêtes en Arctique, on passa le temps en discutaille. D'abord, on attaqua par le répertoire d'histoires que tout le monde connaissait déjà, et une fois celles-ci épuisées, les plus anciens des chasseurs en vinrent aux récits d'autrefois, lesquels étaient à la fois utiles et ô combien instructifs pour les plus jeunes. Sivertz démarra avec l'homme taciturne dont seuls les plus vieux sur la côte se souvenaient. Il avait été parmi les premiers chasseurs expédiés par la compagnie nouvellement créée. C'était un homme étrange qui n'avait pas débâillé un mot durant tout l'hiver que Sivertz et lui avaient passé ensemble à la cabane du vent. « Mais il grognait, expliqua Sivertz, et la nuit, il grondait d'un air méchant dans son sommeil. C'était un compagnon renfermé et peu amène, en toutes circonstances, restait le bec obstinément clos, ce qui le fit considérer comme muet. Sivert secoua la tête en y repensant. Ce fut une année difficile, avoua-t-il, et c'est peu dire que j'étais soulagé quand, l'été suivant, je l'ai vu rembarquer à Cap Thompson. Il leva les yeux et regarda son actuel compagnon, le petit Pedersen. C'est seulement quand il fut dans la yole avec les matelots d'Olsen, en route pour la Velmarie, qu'il se mit debout en nous menaçant, nous tous alignés sur la plage, de son poing fermé. Puis il hurla haut et fort, de manière à ce que tout le monde entende bien. « Bande de trous du cul !» Le silence se répandit autour de la table. Les anciens pensaient à l'homme taciturne, et les jeunes avaient la bouche pleine de questions qu'ils n'osaient pas poser. Björken profita du silence pour se lancer dans une de ses dissertations philosophiques. Cet homme taciturne était un cas psychologique très intéressant que je serais capable aujourd'hui de vous ouvrir avec un minimum d'analyse, aussi facilement qu'une boîte de corned beef. Mais, à l'époque, mes connaissances en matière de nature humaine étaient considérablement plus modestes qu'aujourd'hui, et j'étais pour ainsi dire impuissant. Ceci dit, à ce moment-là déjà, je me doutais du fait qu'il portait en lui un secret. Björken déroula son dos du mieux qu'il le put, renversa la nuque et parla au plafond. Le secret d'un secret repose justement, comme vous le savez tous, dans ce qu'il a de secret, mes amis. Et l'on peut parfois se trouver délivré d'un secret par un regard, un geste, une action ou ce qu'on appelle un mot-clé. Il se recroquevilla dans sa position naturelle, se pencha sur la table et promena son regard de visage en visage, un sourire de renard au coin des lèvres. « Dis donc, Björk, s'exclama Laslil, impressionné, t'es vraiment doué pour dire les choses comme elles sont. » Il n'avait pas saisi un traître mot à tout ce baratin. Museau ôta ses lunettes et grogna opiniâtre. « Baliverne, tout ça, Björk. Un secret, c'est un secret. Ça n'a jamais été un secret pour personne. » Mats Madsen se frotta le nez avec sa pipe pour en bien graisser le fin bois de bruyère. L'homme taciturne n'avait aucun secret, parbleu. Il n'aimait pas être ici et il nous détestait tous. « V'là tout. Le sourire de Björken s'élargit. Ses amis s'étaient ferrés à l'hameçon. Avec un peu d'habileté, il pourrait disserter sur le sujet jusqu'à la fin de la tempête, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, 3 bons jours. Il cligna joyeusement des yeux en direction de Museau. « Alors, c'est donc ton avis, Museau ?»« Ah ah, et toi, Mat Madsen, toi qui devrais pourtant savoir un peu plus ?» Björken susurra mielleux. « Je peux peut-être appeler à ces messieurs l'histoire du gigolo ?»« Quel rapport avec le gigolo ?» grommela Mats Madsen. La voix doucereuse de Björken avait quelque chose d'agaçant. Museau se leva pour aller voir si le seau à charbon n'avait pas besoin d'être rempli. Il préférait sortir dans la tempête plutôt qu'écouter les conférences de Björken. Mais le seau était plein, et Museau se réinstalla à table avec un soupir. « Qui était le gigolo ?» demanda Laslil. « Ah !» répondit Björken. C'était un jeune chasseur qui arriva ici probablement à peu près à l'époque où toi tu voyais le jour. Tu veux raconter quelque chose sur lui, Björk? Volontiers, mon jeune ami, parce que l'histoire du gigolo va justement éclairer toute mon argumentation en ce qui concerne la notion de secret. Björken laissa encore une fois son regard scruter les visages des autres, et comme il y eut un certain intérêt, il se frotta joyeusement les mains et commença. Avant de relater ces événements étranges et historiques, je voudrais toutefois, pour l'ambiance et parce que c'est les 40 ans d'Onsen, me permettre de poser sur la table une bouteille de Jamaïque. Il eut un mouvement de tête à l'adresse de Leslie, qui, prestement, bondit chercher le rhum dans le grand sac du traîneau de Björken. Walfred, dans sa couchette, se réveilla au moment où le bouchon était délicatement extirpé de son goulot. Il regarda le lieutenant d'un air contrit. « Dis, petit Hansen, si ça te dérange pas, tu pourrais peut-être m'apporter un verre bien plein. Je sais bien que c'est ton anniversaire, mais il y a si peu de place autour de la table, ça en fera plus si je reste dans ma couchette, pardi. » Hansen remplit de rhum un carré maillé et le tendit à Walfred. « Que Dieu te bénisse, Hansen. Puisses-tu jouir encore de 40 bonnes années ici à Finnbull. » Il but. Regarda Hansen au plus profond des yeux et but encore. Puis il déposa le cruchon sur l'étagère où reposait son dentier et se renversa dans la couchette avec quelques grognements de satisfaction, ses grosses mains rouges pieusement jointes sur son ventre. Björken prenait son temps. On remplit les verres, on trinqua et l'on hurla par deux fois les rituels triple hurrah en l'honneur du lieutenant. C'est seulement au moment où petit Pedersen se mettait, tout sautant, en devoir de porter un toast, que Björken coupa court. « Toi, Pedersen, tu ferais bien d'écouter l'histoire du gigolo, parce que c'était un homme avec des problèmes un peu du même acabit que les tiens à l'époque où tu es arrivé ici. Je vais essayer de raconter cette histoire dans les moindres détails, sans me laisser perturber par les interruptions pernicieuses de Museau ou les digressions comparatives de Walfred, du genre « Ouais, à une époque, j'ai connu un type à Ringstedt. » Laslil leva un doigt. « Perniquoi ?» Le regard de Björken enveloppa son ancien apprenti de beaucoup de tendresse. « Pernicieux veut dire « avec un zeste de cruauté, mon garçon. » Comme quand Museau se met subitement à remuer du charbon au beau milieu d'un récit des plus intéressants ou quand il disparaît tout simplement dehors au lieu d'essayer d'élargir son horizon borné. « Ah, d'accord !» Laslil hocha la tête et Björken continua. « Ce que je vais raconter maintenant date d'une période où tu n'étais peut-être même pas né, ou bien où tu n'étais qu'un minuscule morveux dans les jupons de ta scanienne de mer. La compagnie, elle aussi, était jeune, ainsi que nous, les chasseurs qu'elle envoyait ici. À l'époque, exactement comme maintenant, nous avions pour habitude d'aller jusqu'à Cap Thompson pour y attendre l'arrivée du bateau d'approvisionnement. Une tradition qui, au fil des années, a considérablement raccourci les trajets du capitaine Olsen vu qu'il était de moins en moins obligé de remonter les fjords pour débarquer sa camelote. Du sud venaient le vieux Niels et Alvor qui faisaient le plus long voyage pour venir. Herbert venait de Guesgrave qui a toujours été sa station à lui. Il ramassait au passage le comte à Grover Bay parce que le comte n'avait pas plus de bateau à l'époque qu'aujourd'hui. Sivertz descendait du nord avec Walfred, ainsi que Ludwig, toujours en retard et qui, à cette époque-là, n'avait pas de moteur à sa yole et était donc obligé de ramer tout du long. Björken eut un sourire ému à l'évocation de ses souvenirs. C'était comme si les voyages à Cap Thompson étaient plus splendides à cette époque-là que maintenant. Le pays était jeune, et nous aussi. Le printemps plus lumineux, et les attentes plus grandes. À terre, les bruants des neiges piaillaient partout avec ravissement, et dans le ciel au-dessus du bateau passaient d'épais nuages d'oies et de canards. Les perdrix des neiges caquetaient avec arrogance dans la montagne qu'elles partageaient avec d'innombrables hordes de bœufs musqués ivres de soleil. Une violente bourrasque fit osciller dangereusement la lampe du plafond. Les hommes regardèrent patiemment vers la lumière jaunâtre de la lampe à pétrole, et c'est seulement quand elle eut à peu près retrouvé son calme que Björken continua. Une année, le Velsmari arriva tôt, insolemment tôt. Nous autres, on était quand même à nos postes sur le banc pour commenter la traversée des glaces par le capitaine Olsen. Cette année-là lui fut particulièrement facile d'ailleurs, parce que la glace était relativement dispersée et Olsen arriva à manœuvrer sa coquille de noix jusqu'à la côte sans avoir à monter une seule fois dans le tonneau. Nous, on était donc, comme toujours, alignés sur le banc. À l'extrême droite, William, un anorak blanc avec sa cravate de perles par-dessus, une mode qu'il avait contractée lors d'un séjour au Cap Sud auprès de la veuve Amanda Labonsen, laquelle était sa fiancée du moment. William était assis, avec, comme chaque fois qu'il pense, la mâchoire inférieure en avant, ce qui le fait ressembler à un singe en pleine méditation. Jorken sourit à William, qui lui renvoya chaleureusement son sourire. J'ai toujours dit, continua Björken, qu'il y avait en toi quelque chose de préhistorique, William. La mâchoire proéminente, les cheveux noirs et les nœuds dont les racines poussent jusqu'aux sourcils réunis, si tu veux bien prendre cela comme un compliment, j'irai jusqu'à dire que tu représentes un beau spécimen survivant de Néandertal. Le compliment fit rougir William, et Björken laissa glisser son regard du Norvégien jusqu'au comte. Le comte, lui aussi, était à cette époque très bien habillé au moment du passage du bateau. Il portait un faux col en celluloïd, une veste tirée à quatre épingles et un pantalon de marin avec braguettes de violeur et plis au fer. J'étais moi-même assis à côté du comte, droit et alerte comme toujours, et toute la vigilance de mon intellect aux aguets. À ce moment-là, je n'étais pas encore propriétaire de ma longue-vue télescopique et je n'étais donc pas en mesure de transmettre à mes amis réunis des informations concernant d'éventuels passagers à bord de la Velmarie. À ma gauche, il y avait une place vide, celle de Lodvig, et puis une autre place vide, celle de Vieux Niels. Après ces deux trous se trouvait Mats Madsen. Il était tantôt assis, tantôt debout sur le banc, ou encore en train de marcher fébrilement de long en large. Herbert, lui, se tenait tranquille, les yeux mi-clos, l'air de méditer. Herbert ne s'intéressait pas particulièrement au bateau. Comme vous le savez, Herbert est un homme qui préfère vivre sans penser au passé ni au futur. Il évolue dans le présent, et comme le bateau n'était pas encore arrivé, ça ne pouvait pas encore l'intéresser. Et comme c'était Herbert qui possédait à l'époque la longue-vue télescopique, ça rendait difficile toute possibilité d'être informé sur d'éventuelles présences étrangères sur le pont de commandement. Il fallut pas mal de sommations avant qu'Herbert, avec un soupir, consente à quitter le banc pour mettre la longue-vue devant son œil. Il regarda longuement et sans véritable intérêt, puis replia sa longue-vue et se rassit. Alors, grogna Max Maxen, le capitaine Olsen, le second et un gigolo. Laissa tomber Herbert qui ne possédait pas le don de savoir étirer une information jusqu'aux limites de son point de rupture. Le lieutenant, qui venait de tendre un nouveau rafraîchissement à Valfred dans sa couchette, se renversa en arrière et tortilla sa moustache. Et que faut-il donc entendre par gigolo? Demanda-t-il. Björken hocha la tête. C'est justement la question que posa le comte à l'époque. Puis Herbert passa la longue-vue à Mats Madsen, qui se rassasia de l'image ronde et se mit à marcher avec encore plus de nervosité de long en large devant le banc. Parfaitement exact, murmura-t-il. Un gigolo, ni plus ni moins. La Slill, qui n'était pas très familiarisée avec les mots d'origines étrangères, demanda: Mais qu'est-ce que c'est, Björk, un gigolo? Björken éclata d'un rire magnanime. Un gigolo, mon ami, c'est un sacré bonhomme, assez particulier, très même, difficile d'expliquer ça au pied levé. Mais t'as les pieds bien plantés au sol, Björk. Le sourire de Björken se voila. Mais quand il laissa son regard plonger dans les yeux du Nigaud, il n'y vit qu'innocence naïve et sincère avidité de connaissance. Bon, un gigolo est un type d'individu, un coureur, un cavaleur, un obsédé, quoi, et plein d'autres choses encore, lasse-t-il. L'élève hocha la tête. Dis donc, ça fait vraiment beaucoup tout ça. Vous avez vraiment eu un type comme ça ici? Absolument. C'est bien un gigolo qui accosta à Cap Thompson, il y a de ça de nombreuses années. Un gigolo chiadé. Valfred se retourna en gémissant dans sa couchette. Il s'installa, le ventre bien calé contre le bord, et posa la tête dans sa main. J'en ai rencontré un comme ça une fois, dit-il. C'était un gigolo français qui avait traîné ses galoches à travers toute l'Europe et qui avait été embauché à l'essai en qualité d'apprenti boucher parce qu'il avait été barbier et brancardier sur la Somme pendant la guerre. Il avait la même tronche que notre gigolo, le tire-moile à la pochette, sur son 31, pommadé et gominé dans de fines chaussures blanches tressées. Monsieur voudrait-il insinuer par là que tous les Français sont des gigolos? Demanda Björken, irrité par l'interruption. Fichtre non, Dieu m'en préserve, répondit Valfred. J'ai connu qu'un seul Français, mais celui-là, pour sûr, c'était bien un gigolo. Les autres, j'en sais rien. Mais celui-là, il n'y avait pas plus gigolo. Il n'y avait guère que les histoires de bonnes femmes qu'il n'arrivait pas du tout à assurer. Il souriait bien comme il fallait et se vantait et avait même comme un formidable aspirateur dans le regard quand il voyait les filles dans tous leurs emballages. Eh, oui, il faisait tout ce qu'il pouvait. Et c'est exactement ce que j'ai toujours dit. Moins on en fait auprès des dames, moins on a de difficultés à s'en procurer. Mais ça, le français, il l'avait pas pigé. Et voilà pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Quoi, Valfred? Demanda petit Pedersen qui cernait bien le problème du français. Ouais, il s'est un peu fiancé avec une fille de Roskilde que les ouvriers bouchers nommaient Gyda Belle de Nuit. Une grande et luxueuse bonne femme avec une housse comme un canapé en crin de cheval. Nous, on savait tous à la boucherie que ces fiançailles n'allaient pas durer longtemps, vu que la Gyda, elle avait été fiancée au fil du temps avec tout Roskilde et la moitié de Ringsted. Et peu de temps après, elle échangea effectivement son français contre un maquignon de Slagels. C'était une catastrophe pour l'étranger, parce que là, il venait juste de se faire aux habitudes de Gyda. Et somptueuse, elle l'était. Pour ainsi dire, une femme au grand cœur, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pendant quelques jours, il a eu le moral à zéro, et il chialait dans les tournedos d'eau qui prenaient au passage un goût de salaison. Le chef d'équipe l'a mis au hachoir, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Parce que le français, il était tellement paumé que dès le premier jour, il a laissé traîner par distraction la main dans la moulinette, et avant qu'on ait le temps d'arrêter la machine, elle lui avait bouffé la moitié du bras. Quelle horreur, frissonnait Herbert. Tout ça pour une bonne femme? Valfred hocha la tête et lécha ses gencives desséchées. Le lieutenant lui passa son verre, et après s'être rafraîchi, Valfred enchaîna. Tragique, ça t'as raison, Herbert. Mais enfin, la boucherie n'y a rien perdu. La farce a été vendue à la charcuterie de Lude en tant que véritable farce française. Tout a été liquidé en quelques heures. Plein de clients redemandaient, même s'ils s'étonnaient de trouver pas mal d'esquilidos dans leurs boulettes de viande. Mais il n'y avait rien à faire parce que le français était déjà parti. Björken profita du silence que laissa s'installer la navrante histoire de Valfred pour reprendre sa propre histoire. Les femmes, dit-il, sont à l'origine de beaucoup de soucis, et on en revient à notre gigolo. Nous étions donc installés sur le banc à regarder comment Olsen se débrouillait pour approcher la côte, jeter l'ancre et venir à terre en yole pour amarrer son rafiot par l'arrière. Il posta une vigie parce qu'il se méfiait toujours de la glace. Elle pouvait être loin à l'horizon et, l'instant d'après, grignoter le cuivre du bateau. Quand il toucha enfin terre, ce fut en compagnie du gigolo en question. Un petit homme sec, avec une étroite gouttière sous un nez coulant et des cheveux huileux, genre léchage de vache. Il avait de grands yeux marrons, à moitié cachés par les paupières quand il parlait. Olsen était de bonne humeur. La saison avait été bonne dans les glaces de l'ouest, et il se frotta les mains de plaisir en voyant les tas de peaux de renard que nous avions suspendues aux pignons de la maison. De belles peaux, lança-t-il admiratif, et en putain de quantité. Vous ne vous êtes pas ennuyé cet hiver. Et il y en a d'autres, répondit Sivertz, parce que ni Niels ni Ludwig ne sont arrivés. Olsen désigna le gigolo qui était resté en arrière à racler timidement le sol de son pied. Avec ses paupières à moitié baissées, le type avait presque l'air de dormir debout. V'là votre nouveau compagnon, dit Olsen, et le directeur vous salue en me faisant dire que le nouveau doit s'installer dans la cabane de Cap Elisabeth et que Mats Madsen doit lui apprendre le métier. Le gigolo renroula ses rideaux, fit le tour et serra les mains. Mats Madsen, qui a toujours été gentil envers les nouveaux arrivants, lui tapota gentiment l'épaule en lui envoyant la fumée de sa pipe dans la figure, ce qui le fit tousser. « Belle bicoque, le Cap Elisabeth, » dit Mats Madsen pour l'encourager, « avec vue et tout, et un district riche en canards. T'as des chiens ?» Le gigolo regarda Olsen qui hocha la tête. « Il a deux chiens qu'il va m'acheter, mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur le prix. » Mats Madsen scruta Olsen d'un regard perçant. « Tu les as piqués, Olsen ?» Le capitaine afficha un air ahuri. « D'où Jésus, Mats Madsen, que vas-tu dire là? Tu peux croire un instant que je vole des chiens ?» Ces deux petits clébards qui ont sauté à bord de leur plein gré à Alsund parce qu'ils avaient une furieuse envie de connaître le Groenland et de devenir chiens de traîneau. Et comme tu sais, je suis un imbécile incapable de dire non, pas plus aux bêtes qu'aux gens. Mais faut bien payer un peu pour la traversée, les repas et les petits soins. Mats Madsen hocha la tête. À cette époque, les chiens étaient une denrée rare. Il peut avoir deux des nôtres, ça lui en fait quatre et c'est assez pour se débrouiller. Il donna encore une claque sur l'épaule du gigolo. Belle bicoque et beau clébard, putain, tu vas vivre comme un prince. Le gigolo rit joyeusement. Il avait un beau sourire qui, comment dire, qui réchauffait tout son visage. Merci à vous tous, dit-il. Maintenant, il me reste plus qu'à savoir où se trouvent les gonzesses. Il avait une voix profonde et roucoulante, du genre à graisser les oreilles des bonnes femmes. C'était évident pour nous tous. Les gonzesses? Mats Madsen le regarda décontenancé. Mais d'un coup, il saisit et se claqua les cuisses, hurlant de rire. Ha ha ha! Quel humour il a, ce gigolo! Maintenant, il veut savoir où se trouvent les gonzesses! Ha ha! Et ça nous a tous fait beaucoup rire. Björken ménagea ici une petite pause pendant laquelle tout le monde fut resservi. Valfred en premier, et avant même qu'il ait eu le temps de vider son verre, Björken poursuivait. Dès qu'Olsen fut parti avec les pots de l'année, nous avons réuni un conseil des chasseurs, et il fut décidé que le gigolo resterait chez Mats Madsen et William Lenoir jusqu'à l'arrivée de la première glace, après quoi tous deux iraient l'accompagner jusqu'au Cap Elisabeth et l'y installeraient. Björken plissa le front et regarda d'un air scrutateur Mats Madsen. Bien que je ne lâche qu'à contre-cœur un récit, la suite de l'histoire du gigolo te revient à toi, Mats Madsen. Tu veux bien continuer? Mats Madsen haussa les épaules. Dans ce cas, il nous faut une bouteille de plus sur la table, dit-il, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être interrompu par une extinction de voix. On apporta une bouteille de Black Label fait maison à Cap Thompson. C'était une bonne eau-de-vie qui, tant en degré qu'en couleur et en goût, pouvait effectivement rappeler le whisky. Juste après le départ du bateau, le gigolo avait donc le moral au plus bas. Mais ça, c'est arrivé à bien des gens avant et après lui. William et moi ne l'avons donc pas trop pris au sérieux. Ses genoux voient débouler la fin du monde dès que la poupe du bateau disparaît dans les glaces. Parce que là, tous les liens avec la vie là-bas en bas sont coupés. Et tout à coup, la montagne paraît deux fois plus grande et l'eau dans le fjord devient noire et satanique et les copains ressemblent à une horde de bandits grossiers et sanguinaires. Bon, William et moi, on a donc essayé de remonter un peu le moral au bonhomme, mais c'était comme s'il ruminait quelque chose. William penchait pour des fiançailles rompues, ce qui n'avait rien d'idiot parce que ce genre de choses peuvent précipiter les gens dans les humeurs les plus bizarres. Mais un soir, juste avant le départ pour Cap Elisabeth, les raisons de cette mélancolie éclatèrent au grand jour. Nous avions préparé une sorte de fête d'adieu pour le gigolo avec quelques bouteilles d'eau-de-vie de myrtille de Valfred. Tout a bien commencé dans la jovialité, et puis, tout à coup, le gigolo s'est mis à renifler, et les larmes et la mort vont commencer à dégouliner dans la gouttière et au coin des lèvres. « Eh oh, compagnon, que je lui ai doucement dit en retirant son verre pour qu'il ne risque pas de trop diluer son eau de vie, ça peut quand même pas être si grave que ça. » Les femmes qu'il a sangloté, et puis toute la vérité a éclaté. « Il n'y a aucune femme ici. Je croyais qu'il y en aurait des hordes. » Là-bas en bas, on m'avait dit qu'il n'y avait pas femme plus avenante ni au sang plus chaud que les Groenlandaises, et qu'il y en avait partout, où qu'on se tourne. On m'avait dit qu'elles allaient jusqu'à rentrer chez vous par la fenêtre la nuit et qu'elles faisaient la queue sur la plage à l'arrivée du bateau. Voilà pourquoi je suis venu. Et puis, il a tellement chialé qu'on n'a plus rien compris à ses balivernes. Mats Madsen se régalait avec son Black Label. Bien sûr, je résume un peu là. C'était pas aussi évident rapport à ce que le gigolo, il hurlait et chialait et gémissait. Des vraies jérémiades, et il couinait, il reniflait, il bavait comme pas deux. Mais, malgré tous les bruits parasites, les mots étaient compréhensibles et sont tombés à peu près comme je viens de vous dire. Il alluma sa pipe et se camoufla derrière la fumée. Quand le smog se fut dispersé et qu'on put à nouveau voir de l'autre côté de la table, il dit « Eh, bordel, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de choses ?» Il était évident que le type s'était gouré de côté sur la carte du Groenland. « Eh ouais, que je lui ai dit, pas de bol, mon ami, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas un seul jupon au nord du 71e degré de latitude nord. Paraît qu'il y en a pas mal sur la côte ouest, et William pourrait sûrement t'en causer vu qu'il a fait un voyage d'études là-bas. Mais c'est loin, et ça ne vaut sûrement pas vraiment la peine. » Le gigolo nous a regardés avec ses grands yeux marrons qui lui donnaient une gueule de cocker dès qu'il faisait un peu descendre les rideaux, puis il a longuement regardé un petit sac qu'il avait à la main à son arrivée. Il y avait quelque chose de mystérieux avec ce sac. Petit, propre, en cuir marron, et avec une serrure aux deux bouts dont il portait la clé attachée par une ficelle autour du cou. Mais c'était son sac, et ce qu'il y avait dedans, c'était pas nos oignons. Il l'avait pas ouvert depuis son arrivée à terre, et William et moi, on s'était bien sûr posé quelques questions sur son contenu. William penchait pour des lettres d'amour, et moi pour des relevés de compte en banque, parce qu'à certains moments, le gigolo, il avait tout à fait un air de Rupin. Bon, quand il eut fini de chialer, il a dit tout doucement « Ça va pas, Matt Maxen. Je crois que je vais crever sans femme. C'est comme quand on peut pas respirer. » Ça alors que je lui ai dit plutôt impressionné parce que j'avais jamais rien entendu de pareil. C'est peut-être comme un genre de besoin? Le gigolo poussa un profond soupir. Ça vient de l'intérieur, chuchota-t-il. J'y peux rien. Mats Madsen regarda William en souriant et celui-ci lui rendit son sourire. Ce genre de besoin, c'était une affaire que Williams comprenait très bien, dit Mats Madsen. C'est tout comme maintenant. Dès qu'il arrivait lui-même aux premières chaleurs vers la fin avril, il partait pour le Cap Sud pour se faire régler le compas. « Dis donc, dis-je au gigolo, t'as qu'à partir au Cap Sud avec William pour te faire récurer à fond quand William va rendre visite à sa fiancée. Là-bas, tu vas rapidement te trouver une bonne femme qui te plaira. » Si vous l'aviez vu s'éclaircir, il m'a souri si chaleureusement que j'en ai eu la gorge nouée. « Y a vraiment des femmes à cet endroit-là, Cap Sud » demanda-t-il la voix vibrante d'espoir. « Où c'est ?» William précisa que l'année précédente, il y avait 4 femmes relativement jeunes et qu'il ne fallait que 3 semaines dans de bonnes conditions pour y descendre. Et voilà le gigolo qui jubilait. Il agrippa son sac marron en caressant la serrure de ses doigts. « Quand c'est qu'on part, William » cria-t-il, « je suis prêt sur le champ. » Mais ça pouvait pas se faire, bien sûr. Personne de mentalement sain ne fait un voyage en hiver jusqu'au Cap Sud, et c'est ce que je lui ai expliqué. « Faut attendre le printemps, mon ami, quand le soleil brille dans le ciel, mais que le gel tient encore la glace dans les fjords. À ce moment-là, vous pourrez y aller. » La lumière de son visage s'est éteinte d'un coup. Il a calculé dans sa tête. « 7 mois, chuchota-t-il terrifié. Pas sûr que j'y arrive, Mats Madsen. » Mats Madsen se rinça la gorge et hocha la tête vers Björken qui reprit le récit. On a donc installé le gigolo à Cap Elisabeth fin octobre. À Cap Thompson, il avait appris les rudiments de la vie d'un chasseur, c'est-à-dire comment monter des pièges, dépouiller, atteler les chiens et les mener. Il faisait preuve de bonne volonté, il apprenait facilement, et à un moment, on a même eu l'impression qu'il avait oublié son immense besoin de femme. Ainsi entraîné, le chasseur novice partit dans l'arrière-pays avec son savoir et ses 4 chiens. Les chiens que Mats Madsen lui avait donnés étaient des bestioles aguerries, mais les 2 que le capitaine Hansen lui avait vendus, c'était pas la gloire. L'un était un teckel à poil dur qui avait toujours horriblement froid, et l'autre était une belle petite chienne boxeur, gentille et avenante, mais totalement inapte à tracter un traîneau. Ce fut un long hiver sans confort pour le gigolo. Lui qui avait usé de femmes comme nous autres d'air frais, il était sur le point de s'étrangler avec ses souffrances intérieures. Nuit après nuit, et ensuite jour et nuit après jour et nuit, il restait dans sa couchette à regarder la soupente et à ressentir la solitude l'envahir lentement. Il gisait dans la couchette même où Eldedo del Diablo allait reposer, quelques années plus tard, avec sa copine de plusieurs mètres de long, jusqu'au jour où celle-ci devait l'avaler et le gigolo rêvait de ces doux rêves que nous connaissons tous. Et comme son besoin était plus grand que ceux du commun des mortels, vous comprenez son désespoir quand, le matin, il se réveillait dans une cabane froide, la cuisinière éteinte, la barrique d'eau gelée à cœur, des glaçons dans la moustache et avec ses bijoux de famille tellement petits qu'il lui fallait chercher plusieurs fois avant de pouvoir pisser. Et le pire, c'est quand ses yeux tombaient sur son petit sac marron. Dans ces moments-là, c'était comme si son cœur se brisait, et en pleurant toutes les larmes de son corps, il se vidait de tout son désespoir dans l'ample capuchon de son sac de couchage en peau de bœuf musqué. Après Noël, le gigolo s'est mis à vraiment déconner. Il a commencé à se languir de la chaîne boxeur, qui, entre nous soit dit, était une petite créature bien roulée. Il sentait quelque chose en lui qu'il avait du mal à maîtriser, et dans sa panique, il attela les chiens et descendit nous voir à Björkenborg. Björken resta un instant à écouter les hurlements de la tempête dans la cheminée. C'était une mélodie claire et nette qui faisait chanter verres et bouteilles sur la table. Björken se renversa sur sa chaise et ferma les yeux pour mieux se remémorer ce qui s'était passé il y avait de ça tant d'années. Je dois admettre qu'en voyant le gigolo, j'ai été à la fois effrayé et exalté. Effrayé parce que je n'avais jamais vu visage plus empreint de souffrance, et exalté parce que je savais qu'avec la grande connaissance que j'avais acquise au cours des années en ce qui concerne les phénomènes psychiques, j'étais en mesure d'accomplir une bonne action. Parce que nous étions en présence d'un cas exemplaire de vertigo polaire en plein développement. Après avoir pris soin des chiens, nous avons installé le gigolo à table et Museau lui a servi une soupe de pois cassés et des crêpes au rhum. Il n'a mangé que très peu, mais a parlé d'autant plus. Je l'ai écouté avec attention et quand il a eu fini, je lui ai dit « Tu dis, mon ami, que tes pensées ont frôlé la zoophilie ?» Le gigolo a baissé la tête en regardant honteusement le plateau de la table. « Je crois que oui, chuchota-t-il. « La Slil, interrompit Björken. C'est quoi, zo machin, Björk? Une histoire de gonzesse ?»« C'est tout comme, improvisa Björken. C'est des gens sexuellement déviants rapport aux relations qu'ils entretiennent avec des animaux. Un être humain qui a ce genre de tendance est appelé un zoophile, mon garçon. « Ah bon ?» La Slil hocha la tête. « Alors, c'est comme vieux Niels et son cochon, et dont Svensden et son boa ?» Björken ne prêta aucune attention à son compagnon de station. J'étais infiniment doux et compréhensif en parlant à notre hôte. Il fallait tout d'abord le rassurer. Même Museau s'intéressa à son cas. Il chaussa ses lunettes parce qu'il n'avait jamais vu un vrai zoophile en chair et en os. J'ai expliqué à cette jeune brebis égarée qu'elle partageait son destin avec beaucoup d'autres. Et entre autres, j'ai cité Leda et le Cygne, un certain nombre de célébrités esquimaux qui avaient usé et abusé de tout, de l'ours blanc jusqu'aux puces d'eau. Et tout doucement, il a pigé qu'au fond, il n'était pas si bizarre et qu'il était loin d'être le seul à éprouver des pulsions déviantes. Ici, la Slil interrompit une nouvelle fois Björken. Il leva le doigt et quand Björken l'interrogea, il dit avec zèle, en essayant d'imiter l'introduction habituelle de Valfred. J'ai connu une fois un de ces zoophiles en question. Il était cantonnier à l'île Rod. Une fois qu'il était couché dans un champ avec une fille d'Alrod et qu'il regardait des vaches qui étaient, vous savez, comme c'était le printemps, et tout, et puis un taureau qui a sauté sur une vache, alors le type que je connais a dit à la fille « Eh, mademoiselle, est-ce que je peux faire pareil ?» Alors la fille la regardait avec un air boudeur en lui disant « Ça, c'est tes oignons, elle n'est pas à moi, cette vache !» La Slil se mit à rire comme une baleine, et Björken envoya, au nom de la Slil, des regards d'excuse à tout le monde autour de la table. C'était là une interruption impardonnable, et quand petit Pedersen, le seul à ne pas déjà connaître l'histoire, se mit à rire, il essuya un regard glacial de la part de Björken qui parvint cependant à mettre fin au silence gêné en enchaînant. J'ai à tort supposé que quelques mois de thérapie auprès de moi allaient guérir notre ami. C'est pourquoi j'ai proposé qu'il reste un temps chez nous, à Björkenborg. Nous allions chasser dans la journée et tenions de longues conversations confidentielles le soir, au cours desquelles je devais tout doucement le ramener dans le droit chemin. Le gigolo était d'accord, il voulait à tout prix se débarrasser de cette maladie. Cet hiver-là, nous avons eu beaucoup de visites. Comme la rumeur que nous avions un pensionnaire s'était rapidement répandue sur la côte, les gens venaient de loin pour demander des nouvelles de la santé du gigolo, parce que sous nos latitudes, un pervers sexuel était aussi rare qu'une girafe à trois pattes. Björken se pencha par-dessus la table et joignit ses longs doigts maigres. Il hocha lentement la tête. « Je dois l'admettre maintenant, le cas du gigolo est un vrai casse-tête chinois. J'ai travaillé sur son cas de janvier à mai et je me suis servi de toute mon expérience et de mes connaissances approfondies en matière de vertigo polaire, mais rien n'y a fait. C'est seulement à la mi-mai que j'ai bien dû reconnaître mon échec. Le gigolo passait jour après jour sur le banc de la cuisine, son petit sac marron sur les genoux, à pleurer et à sangloter après la chaîne boxeur qu'Herbert, par mesure de précaution, avait emmenée à Guesgrave, histoire de ne pas laisser traîner les tentations juste devant la porte de la maison. Ma conclusion a été qu'il fallait transporter le malade jusqu'au Cap Sud pour, comme Museau l'exprima à la mesure de ses moyens, une saillie d'urgence. Même si c'était un peu tard dans l'année pour ce genre de voyage, je savais que la santé du gigolo passait avant mon propre confort. C'est pourquoi nous avons levé le camp au plus vite, sur une glace humide et dangereuse. Björken sourit et secoua la tête lentement, ce qui incita l'assemblée à imaginer tous les dangers et les complications auxquels Björken s'était exposé. Nous sommes passés à la hauteur de l'île d'Imer sans encombre. Là, nous avons descendu un bœuf pour les provisions avant de continuer vers le fjord du roi Oscar. L'expédition comptait deux traîneaux, Museau sur le premier et la majeure partie des bagages, moi sur l'autre avec le gigolo, les sacs de couchage et, bien sûr, le mystérieux petit sac qui ne quittait jamais le patient. Tout se passa relativement bien, même en traversant à plusieurs reprises des lacs d'eau de dégel peu profondes, ceci jusqu'au fjord de la société de Seghel. Là, nous nous sommes trouvés devant une large passe d'eau libre d'une côte à l'autre, et comme les montagnes tout autour étaient trop hautes pour que nous les franchissions, nous avons été bloqués. Nous voilà au beau milieu d'un large fjord, avec 100 mètres d'eau devant nous et un homme fou et malade sur le traîneau. Horrible, gémit petit Pedersen. Quelle situation effroyable! Björken aspira l'air à travers ses incisifs jaunâtres. Tu l'as dit, Pedersen. Une situation extrêmement précaire. Dangereuse, grave, inquiétante, se dépêcha-t-il d'ajouter après un coup d'œil en direction de la Cille. Et que fait-on dans ce genre de situation? Il regarda, interrogateur, autour de lui. On fait du thé? Suggéra William. Exact, on fait bien sûr du thé, et tout en serrant le cartoucho entre les mains, on fait mentalement le tour des possibilités qui se présentent. Jerken hocha la tête vers Museau. Et il se trouve que c'est mon ami ici qui a eu une inspiration accidentelle qui se révéla utile. Assis sur son traîneau, il tirait des sons de l'élastique qui maintient ses lunettes accrochées à sa caboche. Et le contact avec cette matière lui faisait penser au caoutchouc de manière générale. Tout d'un coup, il murmura. Et si on avait eu des ballons, des énormes ballons, on aurait pu les attacher au traîneau et naviguer sur l'eau? Björken sourit. C'était bien évidemment une idée totalement idiote. Dites-moi donc un peu qui emmène d'énormes ballons en voyage à traîneau. Mais quand les mots de Museau eurent décanté dans la cervelle du gigolo, celui-ci s'anima. Des ballons, murmura-t-il rêveur. T'as parlé de ballons, Museau? Ouais, des ballons colossaux, de manière à pouvoir flotter sur l'eau. Le gigolo renroula les persiennes et on vit ses yeux. Puis il se mit à rire de manière complètement hystérique. Vous savez comment rigolent les types quand le vertigo les prend. Il se mit à tirer et à farfouiller sous son pull islandais. Je me préparais au pire. Mais il sortit simplement la clé de son sac. Les mains tremblantes, il la tourna dans les serrures et ouvrit. Révélant ainsi son secret, chuchota petit Pedersen. Tout juste, Auguste, et j'admets volontiers qu'autant moi-même que Museau, nous nous sommes penchés sur le sac dévoré par la curiosité. Björken saisit son verre, but lentement, s'essuya méticuleusement la bouche, frotta discrètement, puis contempla silencieusement le bois de la table jusqu'au moment où il sentit l'atmosphère sur le point d'exploser. Je vous ai déjà expliqué, dit-il lentement, que le gigolo était un personnage lubrique, venu au Groenland avec des attentes gigantesques par rapport à quelque chose qu'il ne trouva pas chez nous. Par erreur, il avait débarqué sur la mauvaise côte, et nous avons tout compris de cette erreur en voyant le contenu du sac. Dedans gisaient 400 petits paquets avec chacun son bout de caoutchouc impeccable et d'une solidité à toute épreuve. 400 capotes? Incrédule, le lieutenant regarda Björken. Mais ça fait plus d'une par jour pendant toute une année entière. Björken hocha la tête avec gravité. Vous comprenez donc l'embarras du gigolo quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la moindre bonne femme dans le pays. Que se passa-t-il ensuite, Björk? Les yeux de Laslil étaient rivés aux lèvres minces de Björken. Ben, on a commencé à les gonfler, pardi, les 400. Nous les avons arrimés avec du fil de pêche, et quelques heures plus tard, nous avions 400 petits flotteurs accrochés au traîneau de Museau. Vous avez flotté? Demanda le lieutenant Hansen. Flotté? Björken eut un rire grandiose. C'est à peine si nous avions la moitié des patins dans l'eau. Nous avons balancé les clébards dans la bassine, poussé le traîneau dans l'eau, et puis nous avons tranquillement traversé la passe pour pouvoir continuer en direction des délices du Cap Sud. Mais t'as dit que vous aviez deux traîneaux, objecta le lieutenant qui avait un don exceptionnel pour renifler un racontard. Tout à fait. Jurken fit la démonstration en posant une main sur l'autre. Nous avons évidemment posé mon traîneau sur celui de Museau. Comme ça, le mien n'a pas pris une goutte d'eau. Il fit un ample geste du bras. Et vous pouvez ainsi conclure que j'ai, comme toujours, raison. Le secret du gigolo nous a bel et bien permis de sortir de cette situation difficile et lui a, pour ainsi dire, sauvé la vie. Tout le monde se demandait ce que Björken avait bien pu dire au sujet des secrets, mais personne ne se souvenait de ses mots exacts, ni n'avait d'ailleurs envie de le lui demander. Qu'arriva-t-il par la suite à ce gigolo, sans qui petit Pedersen? Björken éclata de rire. Comme il s'était servi de son secret à d'autres fins, il a engrossé Amalie au Cap Sud, s'est marié avec elle, et s'est l'année d'après installé sur la côte ouest où, paraît-il, il vit encore maintenant une belle vie de famille. La tempête s'acharna à nouveau sur la maison et fit osciller la lampe. La lumière jaune de la lampe qui se balançait dangereusement dansa sur le visage de Walfred, mais cela ne le dérangea aucunement. Il dormait depuis belle lurette. Le lieutenant Hansen se réjouissait de la réussite de cet anniversaire. Il contemplait, méditatif, le plateau de la table, se répétant dans sa tête l'histoire de Björken. Et il ressentit une vive compassion pour le gigolo et poussa un soupir soulagé à l'idée qu'il avait lui-même réussi, à l'époque où le vertigo l'avait travaillé, à revenir sain et sauf et célibataire du Cap Sud et à rester dans cet heureux état jusque dans sa 41e année.